Smaïl Cherghi, bonjour.
Bonjour.
Quand l'émissaire de l'ONU, Hassan Salamé, met en garde la communauté internationale contre une guerre longue et contre une division permanente de la Libye, est-ce qu'il a raison ?
Jusqu'à présent, la situation en Libye se caractérisait par une crise de basse intensité. Mais je crois que ce qui se passe depuis le 4 avril et surtout le ravitaillement des deux protagonistes par des armements modernes, nombreux, donc évidemment, nous pousse à requalifier cette situation pour effectivement considérer que la Libye est en train de glisser vers une véritable guerre civile qui sera longue et qui sera coûteuse en vie humaine, mais également en déstabilisation pour toute la région, en particulier pour le Sahel.
Et quand le Premier ministre Fayez al-Sarraj affirme qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu tant que ce qu'il appelle l'agresseur, Khalifa Haftar, n'aura pas retiré ses troupes de la Tripolitaine, est-ce que vous lui donnez raison ? Ou pas ?
Nous, au niveau de l'Union africaine, le président Faki et moi-même, nous sommes partis le 1er et 2 avril. Nous avons senti que la confiance avait un peu diminué entre les deux parties. Et c'est pour cela que notre croyance profonde, c'est que tant qu'on n'a pas mis tous les protagonistes libyens autour d'une même table et tant qu'on n'a pas fait en sorte que les interférences extérieures cessent, je crois qu'on ne pourra pas réellement amener les uns et les autres à plus de raison. Donc, ce qui est important, c'est que le dialogue reprenne entre les deux parties et reprenne pas seulement entre les deux, mais qu'il soit inclusif.
Le maréchal Khalifa Haftar prétend qu'il ne combat pas une armée régulière, mais des milices privées et des groupes islamistes radicaux. Est-ce qu'il n'a pas un peu raison ?
Nous ne pouvons nous-mêmes que réitérer notre rejet de tout ce qui est intégriste, de tout ce qui est islamiste violent. Donc, je pense que nous tous, avec lui et d'autres, nous ne pouvons pas accepter, au moment où nous avons également le renforcement de ces Daesh qui reviennent du Moyen-Orient dans ce pays, c'est une donne évidemment dangereuse et qui doit être combattue. Donc, je ne vois pas pourquoi ce combat ne serait pas mené collectivement par toutes les institutions libyennes sur une base claire qui est de stabiliser la Libye, d'unifier l'armée et d'éloigner cette donne terroriste intégriste qui est un danger pour toute la région.
Alors, Smaïl Cherghi, vous dénoncez les interférences extérieures, les ravis taillement en armes venus de l'étranger. Quels sont à vos yeux les pays les plus influents sur ce conflit ? Quels sont les pays qui peuvent convaincre les deux belligérants d'arrêter la guerre ?
Ceux-là même qui sont en train d'aider les deux parties, mais également tous les autres. Je parle des pays voisins de la Libye, je parle des grands pays. Et donc, nous souhaitons qu'il y ait vraiment une voix unanime de la communauté internationale pour dire aux uns et aux autres, ce n'est pas en ramenant des armes additionnelles en Libye, où il y avait déjà plus de 60 millions d'armes, qu'on arrivera à une solution durable dans ce pays. Donc, j'espère qu'à travers votre radio, cet appel soit écouté pour que ces protagonistes, au-delà de ce qui est pétrole, de ce qui est exploitation des ressources naturelles, de ce qui est intérêt purement national, pour que ces protagonistes aient à l'esprit d'abord l'intérêt supérieur du peuple libyen.
On dit que la Russie soutient le camp Haftar. Est-ce que le coup de fil à la mi-avril entre Donald Trump et le maréchal Haftar n'est pas le signe que les Américains, eux aussi, ont basculé du côté de ce camp ?
Évidemment, il y a un certain nombre de faits. La volonté des deux parties de continuer à vouloir recourir aux armes atteste de soutien encore plus grandissant qui leur vient de part et d'autre, que ce soit des grandes puissances ou d'autres forces régionales. Mais nous ne pensons pas que ce soit l'orientation. Je pense qu'il est de la responsabilité des uns et des autres de promouvoir le dialogue et une solution durable à ce conflit.
Quand le chef du gouvernement libyen, Fayez al-Sarraj, accuse la France de soutenir le camp du maréchal Haftar, il a raison ou pas ?
Je crois que cette réponse devrait venir peut-être des autorités françaises compétentes. On nous dit que la France essaie aussi de faire entendre raison au général Haftar. Si c'est le cas, comme d'ailleurs l'Italie et d'autres, je pense que ce serait la bonne chose. Il faut qu'on parle aux deux camps et qu'on leur dise qu'il n'y a pas de solution militaire à la crise libyenne.
Donc il faut que la France, l'Égypte, les Émirats parlent au maréchal Haftar pour qu'il modère ses ambitions. Il faut que la Turquie, le Qatar parlent au camp de Fayez al-Sarraj pour qu'il modère lui aussi ses ambitions.
Absolument, je pense que c'est une demande, je pense, pertinente. mais qui ne se limite pas seulement à ces pays. Il y a beaucoup d'autres interférences et nous espérons que la voix de la raison soit entendue et qu'on puisse vraiment converger tous ensemble pour promouvoir cette solution de dialogue et de réconciliation en Libye.
Alors Smaïl Cherghi, jusqu'à présent, les livraisons d'armes, malgré l'embargo, étaient très discrètes. Mais le 18 mai dernier, le gouvernement al-Sarraj n'a pas hésité à publier les photos de quelques dizaines de blindés turcs en train d'être débarqués au port de Tripoli. Est-ce que ce n'est pas un signe inquiétant ?
Il me semble que c'est un signe inquiétant. On a vu d'autres signes aussi de l'autre côté. Et je pense que c'est une violation de l'embargo qui est décrété par les Nations Unies. Et je crois qu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité est vraiment interpellé. Il faudra absolument arrêter ce flot d'armes qui ne font qu'aiguiser et aggraver et peut-être étendre la crise à l'avenir.
L'Union africaine est actuellement présidée par un pays, l'Égypte, qui soutient ouvertement et militairement le camp du maréchal Haftar. Est-ce que cela ne risque pas de compromettre toute l'Union africaine et de ruiner vos propres efforts de médiation à vous, Smaïl Cherghi ?
Non, nous avons eu, comme vous le savez, une réunion au Caire de la Troïka sous présidence du président Abdel Fattah al-Sissi. À aucun moment, nous n'avons senti l'Égypte vouloir avancer un quelconque agenda qui lui est propre. Donc, dans la réunion tenue au Caire même, nous n'avons pas perçu une volonté de changer de ligne de conduite par rapport aux décisions de l'Assemblée de l'Union.
Mais est-ce que le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi est crédible comme éventuel médiateur ?
Il me semble qu'il y a un groupe de 3 pays qui essayent de travailler ensemble, c'est l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie. Mais je note aussi qu'il y a les autres pays du Sud qui constituent tous les voisins. Je crois que c'est un peu le cadre dans lequel s'est exercée jusqu'ici l'activité de ces pays par rapport au dossier libyen. Il faut que l'approche concerne tous les pays voisins de la Libye, donc le Tchad, le Niger, le Soudan, pour que cette approche soit réellement partagée. Mais nous avons aussi un comité des chefs d'État qui est vraiment très actif, qui veut aider à cette solution. C'est pour cela que je souligne notre volonté de travailler étroitement avec les Nations Unies. Compte tenu du niveau atteint par la crise, il est plus que jamais nécessaire que les 2 grandes organisations, les Nations Unies et l'Union africaine, travaillent maintenant ensemble et aient une seule feuille de route. C'est le message que j'ai délivré il y a 2 jours au Conseil de sécurité quand je l'ai briefé.
Au Soudan, le président El-Béchir a été renversé le 11 avril dernier après 30 ans de pouvoir et 4 mois de manifestations de rue. Est-ce le signe que 30 ans de pouvoir pour un seul homme, c'est trop long ?
Je crois que dans la vie, c'est valable pour nous autres individus que pour aussi tout responsable. Il faut toujours savoir partir. Les signes avant-coureurs étaient là. La décision dans son propre parti était normalement prise pour son départ. Et je crois que ce qui lui a fait craindre peut-être d'être arrêté, c'était la question de ICC.
La Cour pénale internationale.
La Cour pénale internationale. Je crois que c'est une mauvaise appréciation de la situation qui l'a amené aujourd'hui à quitter le pouvoir de cette manière. Et pour nous, l'Union africaine, nous sommes totalement engagés pour que ceux qui conduisent actuellement ces négociations puissent répondre aux attentes des populations soudanaises. Nous sommes prêts à consolider, à soutenir n'importe quel accord politique auquel ils arriveraient. Mon sentiment personnel, c'est que j'espère que même les groupes, tous les mouvements armés, que ce soit celui de Darfour, du Blue Nile, Kordofan ou Abyei, soient associés à cet exercice pour qu'on puisse arriver à une solution définitive et complète de tous les problèmes du Soudan. S'il n'arrive pas, si cet accord prend du temps, je crois que nous sommes disposés à réellement renforcer. Actuellement, nous avons une équipe sur place qui donne conseil de manière très discrète, mais qui est en contact avec tous les protagonistes. Mais nous sommes prêts à réellement mener un effort supplémentaire si nécessaire. Et je me félicite de ce que tous nos partenaires ont renouvelé leur soutien. Ils ont réaffirmé qu'ils étaient prêts à être derrière l'Union africaine pour conduire un tel processus si nécessaire.
Alors une transition de 3 ans est prévue jusqu'à des élections démocratiques et pour l'instant ce sont les militaires qui gouvernent mais ils refusent de céder la tête du Conseil souverain à un civil. Est-ce que cela ne vous inquiète pas ?
Par rapport aux dispositions et à nos textes fondateurs, évidemment, si le pouvoir n'est pas confié à un civil, il ne se résoudrait pas à l'accepter facilement. Sauf si vraiment il y a des choses exceptionnelles qu'on nous présente, mais en règle générale, et la demande du Conseil de paix était très claire, fallait rendre le pouvoir aux civils. Mais je crois qu'au-delà de cette question, l'armée est une institution qui est importante dans le pays. Il faut absolument la préserver de la division et des interférences qui peuvent compliquer la donne. Deuxième élément, c'est une transition. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir une feuille de route claire pour répondre aux objectifs de ceux qui ont pris leur courage d'aller sortir dans la rue pour demander un changement de régime. Donc, nous n'interférons pas dans le choix des Soudanais, mais nous, l'Union africaine, ce qui nous importe, c'est que ce pays fasse sa transition dans la paix, dans l'unité, et surtout qu'il puisse répondre aux causes profondes de cette crise, qui est essentiellement économique et sociale, et surtout d'une certaine manière d'injustice.
En Somalie, les Chebabs ont commis de nouveaux attentats la semaine dernière à Mogadiscio. Ils ont tué notamment un ingénieur turc. De leur côté, les Américains ont lancé 2 frappes contre les Chebabs. Est-ce que cette guerre est sans fin ?
C'est une guerre surtout qui devient plus complexe parce que les Chebabs ont acquis avec certitude de nouvelles techniques, des moyens additionnels. Et au moment où il y a le débat qui va venir dans quelques jours à New York au Conseil de sécurité pour le renouvellement du mandat de Amisom. Or, non seulement Amisom n'a pas tous les moyens pour mener ce combat, mais malheureusement, nous apprenons que le soutien habituel que nous avons pour nos soldats a diminué et nous aurons un gap qu'il faudra essayer de couvrir. Il y a même une idée de réduire encore davantage les forces d'Amisom. Cela nous attriste parce qu'il y a ce genre de gestes qui sont moralement inacceptables parce qu'ils atteignent au moral de nos troupes et en même temps ne répondent pas aux défis du terrain. Et vous avez raison d'indiquer le nombre élevé de ces attaques que nous subissons pratiquement au quotidien.
Et donc vous craignez que les pays bailleurs de fonds se lassent et réduisent encore les efforts qu'ils font pour l'Amisom.
Bon, jusqu'à présent, en fait, le principal partenaire que nous avons, en plus du soutien des Nations Unies à l'Amisom, il y avait l'Union européenne. Il se trouve que, évidemment, ils ont aussi une pression interne au niveau de l'Union européenne. Et donc, chaque année, ce débat revient. Mais ce qui fait défaut, c'est que les autres partenaires, il s'agit d'aider les Somaliens et de les préparer à prendre leurs responsabilités.
Donc c'est aussi un appel à Washington en faveur de l'Amisom.
À Washington et à tous les partenaires en fait, même les pays voisins du Moyen-Orient, du Golfe, donc qui aident bilatéralement, mais s'il y a une aide beaucoup plus structurée, organisée, qui vienne à travers nous, l'Union africaine, ou à travers le Fonds des Nations Unies pour soutenir l'Amisom, pour stabiliser le pays, récupérer plus de 80% du territoire et permettre au champ politique d'exercer pleinement ses activités dans ce pays.
Smaïl Cherghi, merci.